Culture, littérature,
expo, Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce troisième numéro de Transversar. Aujourd'hui, nous parlons patrimoine, et plus précisément patrimoine urbain, puisque nous recevons la présidente de Un Paris pour l'Histoire, Jessica Cohn.
Bonjour.
Jessica, bonjour. Et Élise Cagne, qui est elle directrice de l'association Clac Sniff Week. Bonjour Élise.
Bonjour.
Alors, si Un Paris pour l'Histoire est basé, comme son nom l'indique, à Paris, Clac Sniff Week, pour sa part, est lyonnais. Et si Un Paris pour l'Histoire propose une découverte historique du patrimoine parisien, Clac Sniff Week, lui, investit les rues, places et autres ponts lyonnais avec une poésie tout artistique. Rassembler ces deux associations, c'est donc réunir, en quelque sorte, l'historique et l'esthétique, c'est-à-dire les deux valeurs premières de ce qu'on nomme le patrimoine. Et c'est à cette notion de patrimoine, à l'analyse des raisons de l'intérêt qu'on lui porte aux manières de la faire vivre en 2010, que nous allons nous intéresser dans notre entretien. Mais qu'est-ce qui nous attend ensuite, Célia ?
Bien des choses, Nina, bien des choses, comme d'habitude. Donc dans une seconde partie, nous vous proposons une suite de cette enquête sur le rapport des étudiants à leur ville. Armés de notre micro, nous sommes allés sonder le regard que les étudiants de l'école portent sur Lyon. Découvertes insolites, coups de cœur ou pires expériences, vous saurez tout de leur déambulation lyonnaise. Et enfin, dans la chronique Regard sûr, c'est Yoon Kwon qui s'est prêté au jeu et qui nous parlera musique.
Mais commençons tout de suite. Alors je propose à nos deux invités d'organiser cet entretien en deux parties. Tout d'abord d'aborder sous un angle plus général la question du patrimoine et enfin de revenir dans une partie qu'orchestrera Célia, avec brio bien entendu, sur les actions plus précises de vos associations. Alors pour commencer, il semble quand même que historiquement, c'est dans les moments où il est en danger, où il est menacé, que le patrimoine et l'importance de sa préservation ont été mis en avant. Il n'y a qu'à penser à, par exemple, la Révolution française. C'est quand même au moment de la Révolution, des vandalismes qu'elle a provoqués, que la France a pris conscience de l'importance de son patrimoine et de l'importance de sa protection. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vos deux jeunes associations sont issues d'un contexte dans lequel le patrimoine serait en danger ? Élise, par exemple.
Personnellement, déjà oui, c'est très vrai que le patrimoine a un regain d'intérêt, en tout cas au niveau de la population dans les moments de crise. Et je pense en effet que de nos jours, nous sommes dans un moment de crise qui n'est pas seulement économique, mais assez identitaire en fait, que ça soit individuel ou collectif, mais surtout assez collectif. Et que dans ces moments-là, on a besoin de se poser la question de notre histoire, des tracés qui ont été établis jusqu'à maintenant, des marques, des stigmates de notre culture, que ce soit au niveau du patrimoine architectural ou du patrimoine plus immatériel, quoi.
Bien sûr.
Mais par contre, je ne ressens pas vraiment le fait que le patrimoine soit menacé. Et je considère plutôt qu'on a, même au niveau des politiques, un regain d'intérêt pour ce patrimoine et qu'il est plutôt surprotégé en ce moment.
Donc du coup, il y aurait un besoin d'approche alternative du patrimoine. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jessica ?
Alors moi, j'ai surtout l'impression que le patrimoine est négligé. N'oubliez pas qu'on essaye de le détruire, à part peut-être pour le nouveau musée de l'identité nationale qu'on veut faire à la place des archives nationales à Paris. Mais surtout qu'on n'y pense plus, qu'on n'en parle plus, que les autorités ne le protègent plus et qu'elles ne font rien non plus de nouveau pour inscrire une nouvelle dynamique urbaine dans les villes. Évidemment, je connais bien Paris. Si on regarde Paris, depuis Beaubourg et la pyramide du Louvre, on n'a plus rien fait de nouveau. C'est quand même très dommage. Un patrimoine, c'est aussi quelque chose qui vit, qui se renouvelle. Et en ce moment, ça tombe plutôt dans l'oubli. Voilà.
Donc il y a deux choses. Il y aurait le renouvellement et aussi, non seulement en fait, conserver le patrimoine tel qu'il existe, et aussi le faire vivre.
Exactement.
En quelque sorte. Et est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là de vous inscrire dans un mouvement plus large, un mouvement associatif ? Parce que, par exemple, il y a une association qui s'appelle Urban Experience, qui est basée à Paris, avec deux branches, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une qui s'appelle les Untergunter et l'autre qui s'appelle la Mexicaine de Perforation. Et donc, Untergunter, ce sont des réseaux de restauration clandestine. Par exemple, ils ont restauré l'horloge du Panthéon, considérant que l'État n'en prenait pas assez soin. La Mexicaine de Perforation, qui serait plus proche en quelque sorte de Clac Sniff Week, organise des événements culturels illicites dans des lieux délaissés du patrimoine. Mmh. Donc, est-ce que vous pensez que c'est aux associations de prendre en charge ce que l'État ne ferait pas ?
Pourquoi pas ? Si l'État ne le fait pas, on va pas rester là à regarder le temps passer, les bras croisés. Donc, pourquoi pas, oui. Mais ce serait bien que l'État nous aide un peu plus aussi dans nos entreprises.
Parce que, par exemple, toi, ton association, est-ce que vous êtes financée ? Est-ce que vous avez des partenariats ?
On est financé par des facs parisiennes, par le CROUS de Paris aussi. Et la première année de notre association, on avait en fait été financé par la mairie de Paris, qui depuis refuse de renouveler sa collaboration parce qu'on n'est plus une association nouvelle.
D'accord.
Ce qui est un peu dommage étant donné qu'on...
Il y a quand même une sorte d'utilité publique.
Je pense.
Et pour vous, à Lyon, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, nous, on est financé et par le CROUS. Enfin, on a été financé sur le premier projet parce que c'est des subventions de projet, en fait, pas de fonctionnement, par le CROUS Lyonnais, la région. Et c'est vrai que c'était surtout des subventions jeunes ou premier projet. Quoi.
Dans votre action, est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer d'autres associations qui, elles aussi, s'occupent du patrimoine, ont d'autres politiques de mise en valeur qui vous feraient penser que vous vous inscrivez dans un mouvement plus large ?
Nous, on s'inscrivait pas du tout dans un mouvement général quand on a créé l'association. On avait une idée, on voulait la mettre en œuvre, voilà. Mais une fois qu'on l'a créée, on s'est rendu compte qu'il existait à Paris quelques associations de défense du patrimoine, de découverte du patrimoine, mais rien qui s'inscrive vraiment dans une démarche ludique ou pédagogique. C'était quand même beaucoup plus plan-plan, on va dire. Voilà. Sans vouloir être méchante. Je ne cite pas le nom de l'association.
Moi, j'ai l'impression qu'on s'inscrit, oui, dans un mouvement où il y a beaucoup de structures culturelles et aussi sociales, ou alors avec un penchant urbanistique sur Lyon, qui s'intéressent quand même à la vie urbaine des habitants.
Mais alors justement, tu parlais quand même le terme de plan-plan. C'est vrai que le terme même de patrimoine est souvent rattaché dans le lexique ou dans l'imaginaire à l'idée de conservation, voire de conservatisme, de vieilleries poussiéreuses qu'on voudrait sacraliser et laisser telles qu'elles sont. Et donc, du coup, quand même, ce qui est intéressant dans votre action, et est-ce que c'était un début de premier, l'idée de vraiment revaloriser, de dynamiser la notion de patrimoine en l'investissant de manière créative. Et là, je m'adresse aussi peut-être particulièrement à toi, Élise.
Alors, nous, en fait, on n'est pas du tout parti de la notion de patrimoine. C'est vraiment pas un mot, une notion duquel on est parti pour l'activité de cette association qui est un atelier de confection d'événements urbains. Mais on est plutôt parti sur l'approche du vivre au quotidien des habitants. Comment bouleverser ce quotidien urbain, comment apporter quelque chose de sensible et d'artistique dans ce quotidien. Et voilà, une autre approche de la ville, en fait, et de ce qu'on peut aussi nommer le patrimoine.
Nous, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était vraiment que les habitants d'une ville apprennent à revivre cette ville, à en revivre l'histoire.
Et du coup, toujours dans cette idée de redynamiser, alors, puisque la définition du terme patrimoine ne cesse d'évoluer, son extension, sa compréhension se modifie selon les époques et selon l'institution qui en donne une définition, quelle serait, selon votre association, selon le point de vue de votre association, la définition que vous donneriez au terme patrimoine ? Qui veut se lancer ?
Je t'en prie.
Donc je dirais que pour nous, le patrimoine, c'est d'abord quelque chose de clairement historique, donc un espace urbain qui s'inscrit dans l'histoire et qui, cependant, tout en s'inscrivant dans l'histoire, est à redécouvrir en permanence, comme si l'histoire refaisait toujours éruption dans la vie de tous les jours. Et donc c'était véritablement un lieu de vie, et pas seulement un lieu
de contemplation.
Voilà.
Moi, je pense que j'insisterais assez sur la composante collective, en fait, du patrimoine, qui est un bien commun et collectif, et que c'est vraiment sur cette notion-là que nous, on s'appuie, et aussi sur le fait qu'il est toujours en mouvement, c'est toujours à réinventer ensemble, et que voilà, c'est une chose qui nous lie, qui nous aide à comprendre nos identités collectives, à comprendre aussi l'air du temps, et à construire ensemble quelque chose pour... héritage aux générations futures.
Alors, construisons ensemble et plaçons-nous dans la fiction. Imaginons, vous êtes ministre de la Culture, le remaniement a eu lieu, vous êtes nommé. Quel événement, et vous devez évidemment marquer votre passage, comme tout ministre de la Culture, comme tout successeur de Jack Lang, quel événement, quel festival qui serait lié au patrimoine, lancez-vous ? Élise.
Alors personnellement, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer ministre de la Culture.
C'est pas grave.
Un poids assez lourd sur mes épaules là, présentement. Non, je pense que c'est vraiment très difficile et que j'aurais pas vraiment d'idée pour ça parce qu'un événement d'ampleur comme ça, comme la fête de la musique, pour moi, ça perd de son sens dans l'approche du quotidien et de l'habitat, en fait, dans la qualité de l'approche.
Un problème d'échelle.
Voilà, donc moi, je suis vraiment plus acteur de terrain sur des petites échelles. Ouais.
As-tu réussi à te livrer à cet exercice de mégalomanie, Jessica?
Peut-être un peu. J'aimerais bien voir une journée consacrée, une espèce de carnaval transhistorique consacré au déguisement de personnages dans l'histoire. Et alors, je ne sais pas s'il y aurait un thème selon les ans ou si on pourrait se déguiser de la préhistoire à nos jours. Mais quelque chose dans ce goût-là pour que les gens réapprennent à se représenter tels que les hommes étaient auparavant, dans les mêmes rues de la même ville.
Écoute, comme Frédéric Mitterrand fait sûrement partie des nombreux auditeurs de Transversar, je pense que tu seras exaucée. Célia, je te laisse la parole.
Oui, ce serait formidable d'ailleurs, j'attends cet événement avec impatience. Bon, donc après avoir endossé finalement le rôle de ministre de la Culture, je vous propose de revenir à vos associations, puisque vous avez quand même toutes les deux un rôle très important. Vous êtes des leaders, et donc je voudrais qu'on fasse retour ensemble sur une présentation plus générale des deux associations en elles-mêmes, donc sur leur fonctionnement, les actions qu'elles cherchent à mener, et sur les objectifs qui animent les membres de chaque équipe, donc par exemple Élise.
Alors, donc, Claque Sniff Week est une association qui est un atelier de confection d'événements urbains. Et on souhaite, à travers cette association et les événements et les projets qu'elle monte, travailler avec, au plus près des habitants, au plus près du quotidien des habitants, autour des notions de vivre urbain et d'action artistique. Plutôt spectacle vivant, mais voilà.
D'accord. Et Jessica ?
Donc, Un Paris pour l'Histoire est une association de promotion historique, de promotion de la ville de Paris, historiquement parlant, auprès des étudiants, en particulier à travers des jeux de pistes historiques annuels. Et notre but, c'est donc de promouvoir l'histoire en tant que discipline vivante, de concevoir Paris en tant que territoire dynamique et de participer à l'animation de la vie étudiante.
Et d'ailleurs, il ressort vraiment de vos deux présentations l'idée de dynamisme. Et c'est vraiment ce qui apparaît même dans votre site internet quand on ne connaît pas forcément vos associations. C'est ce qui donne envie de vraiment d'en savoir plus. Et donc dynamisme et aussi ludisme, puisque nous avons été vraiment agréablement surprises par le côté ludique de vos manifestations qui sont susceptibles donc d'attirer un public très large, très varié. Et vous, finalement, est-ce que vous visez un public en particulier? Et si c'est le cas, quel est le résultat? Donc à Paris, par exemple?
Alors au départ, on a créé l'association pour viser en priorité les étudiants. Mais on est en train de se diversifier et on a monté cette année un projet pédagogique qui vise les lycéens de banlieue qui ont rarement l'occasion de venir à Paris et qui n'ont souvent pas les clés en main pour comprendre la ville. Le but, c'est vraiment, quel que soit le public qu'on touche, de leur faire réapprendre ou apprendre leur ville, vraiment.
Donc oui, il y a une dimension pédagogique et je pense il y a vraiment l'idée du goût aussi parce que, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment très très intéressés et d'autres qui ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils voient tous les jours, qu'il faut vraiment leur réapprendre à ouvrir les yeux finalement.
Tout à fait. Et le fait de les réunir comme ça en équipe et d'intégrer ça à un jeu, à une espèce de petite compétition, ça les motive beaucoup et finalement ils lèvent plus les yeux à la fin. À la fin, ils sont beaucoup à nous dire qu'ils ont aimé répéter des choses à leurs amis, leur apprendre, devenir à leur tour professeur. Donc apparemment, ça marche.
Et à Lyon, quel est le public?
Ça dépend parce que le public, au sens large qu'on vise, c'est n'importe quel citadin, de n'importe quel âge, de n'importe quelle origine, enfin n'importe qui vit à Lyon et qui a l'expérience de la ville de Lyon, en fait. Mais après, il y a des petits groupes de personnes qu'on vise et auxquelles on donne une partie plus active dans le projet, qu'on appelle des participants. Et eux, c'est plutôt des habitants de quartier. On a envie de travailler avec des quartiers qui nous intéressent. Et voilà, là, on va chercher plutôt des habitants d'un quartier précis.
D'accord. Donc, et justement, est-ce que vous pourriez toutes les deux revenir sur une expérience, le récit d'une manifestation qui vous a plu ou dans lesquelles vous vous êtes vraiment investi? Donc, à Lyon, par exemple, si tu devais citer une des actions que tu as menées ?
Alors en fait, on a mené qu'une action pour l'instant. Oui. C'est pas très compliqué, c'était les fabulations urbaines de
Clarisse. Oui, mais en plusieurs temps.
C'est vrai. Et c'était en trois volets.
Voilà, exactement.
Et ça se déroulait sur le samedi 2 octobre, donc dans trois quartiers différents de Lyon, Perrache-les-Guillotières et les Pentes de la Croix-Rousse. Le premier volet était donc un volet participatif avec des participants lyonnais qui comptaient et qui étaient accompagnés de musiciens, de graffeurs et de personnages fabuleux. Le deuxième volet, c'était donc à la Guillotière, une déambulation dans la Guillotière. Le public était invité à faire une promenade qui était guidée par deux comédiens, deux jeunes comédiens, et s'arrêtait devant six lieux qui, pour nous, représentaient une fonction clé de la ville. Donc pour le lieu commerce, l'étalage d'une épicerie, pour le lieu résidence, les fenêtres d'un appartement, le lieu circulation, un parking. Et dans ces six lieux, il y avait 10 minutes de création de jeunes artistes de spectacle vivant qui étaient soit encore en école sur Lyon, soit qui venaient de sortir. Et le troisième volet, c'était une création sonore au Cotopo, dans les Pentes de la Croix-Rousse, autour de sons urbains, sons féeriques, et puis un peu de voix qui comptaient sur des contes autour de la ville, en fait.
D'accord.
Autour des thèmes de la ville.
Très bien. Et à Paris, alors ?
Alors, c'est pareil, on est une toute jeune association, donc on a eu deux événements principaux de rallye historique. Le premier sur les bouleversements haussmanniens et le second sur les rumeurs du Paris médiéval. Et je peux vous parler du dernier en date, c'était en juin 2010. On a réuni 96 personnes en 16 équipes, donc qui étaient réunies dans des équipes de 5 à 7 personnes. Ils reçoivent au début un livret de route avec des personnages qu'on leur présente, qui vont en quelque sorte incarner, qui ont une mission à accomplir. Et pour accomplir cette mission, ils vont suivre des parcours avec des questions qu'on leur pose, des indices qu'ils vont trouver, jusqu'à l'énigme finale qui leur permettra peut-être ou pas de remporter le premier prix. Voilà. Et c'était une très très belle expérience déjà parce que donc on leur avait donné rendez-vous devant la basilique Saint-Denis, et quand on voit 96 personnes arriver progressivement devant la basilique Saint-Denis et qu'on se dit que c'est pour aller marcher dans Paris, c'est quand même super. Et on a fini au terme de Cluny, on a fait la remise des prix dans la cour des thermes de Cluny, parce que le rallye tourne autour de Nicolas Flamel et c'est là qu'il est entouré. Qu'il a enterré. Bien sûr.
Et il était entouré de 96 personnes.
De 96 personnes, plus les organisateurs, donc une bonne centaine. Et c'était vraiment très, très chaleureux et très sympathique. Et les gens ont découvert beaucoup de choses. Et moi aussi, par la même occasion.
Donc. Oui, et donc justement, je vais profiter de la jeunesse, entre guillemets, de vos associations pour vous demander quel a été l'apport pour vous, l'expérience positive ou négative, hein. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose, voilà, quelque chose que vous voudriez évoquer avec le sourire ou un peu de regret? Mais le sourire, c'est mieux.
Moi, je trouve que justement dans les relations avec les participants, quand on monte un projet participatif, un projet artistique participatif, il y a beaucoup, beaucoup de hasard parce qu'on tombe sur des personnes qui ont chacun une histoire, chacun une approche différente en fait de l'artistique et chacun une envie différente en venant nous voir et en venant participer à un projet. Et du coup, oui, nous, on a eu beaucoup peur parce qu'à 3 semaines de l'événement, on avait très, très peu de participants compteurs. C'est très difficile d'aller chercher des gens comme ça et de sans passer par des structures relais, en disant juste bon, habitants lyonnais, venez avec nous. Et on a eu peur d'avoir aucun participant compteur, et au final on en a eu énormément à la fin. Enfin, on était une quinzaine, il y avait une quinzaine de participants, ce qui est beaucoup pour le degré d'implication qu'on leur demandait.
Ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'expérience des rallyes passés, c'est que les participants font des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. On n'avait jamais pensé qu'ils le feraient, c'était pas du tout pris en compte. Et puis tout d'un coup, ils commençaient à élaborer des stratégies ou bien. Et la première année, on a une équipe qui a décidé qu'elle allait déstabiliser toutes les autres équipes et qui a mis en place toute une série de stratégies, par exemple accrocher leurs sacs sur les médaillons d'information historique de la ville de Paris pour les empêcher de voir les informations. Et ça donnait un piment au jeu. Alors c'était pas très fair-play, mais c'était quand même très sympa. Ça donnait un piment. Ils commençaient à se courser, Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve un petit côté cours d'école.
C'est très convivial.
Oui, j'espère.
Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air. Après ces événements passés, je vous propose de vous tourner vers l'avenir. Donc, quel est le programme pour la suite ? S'il y a un programme, nous l'espérons.
Oui, alors nous, on a... avec Clegg Sniffwick. On a récolté justement des écrits d'habitants du public qui ont écrit pendant l'événement des morceaux de contes. On leur mettait à disposition des enveloppes, ils pouvaient écrire des morceaux de contes. Et on voudrait faire une petite production du coup éditoriale avec ces écrits d'habitants lyonnais. Et ensuite, on a des projets de plus grosse ampleur pour la suite, mais pour la suite dans un peu longtemps quand même, autour de cartes mentales, cartes sensibles avec les habitants d'un quartier, donc plutôt 7e, 8e, on ne sait pas encore exactement le périmètre, pour faire travailler des artistes graphistes, illustrateurs, peintres, etc., plasticiens, avec des habitants sur une conception d'une carte sensible et d'une carte utopique de Lyon.
C'est joli.
Très bien. Nous, donc on a le projet pédagogique qui aura lieu en décembre là, avec un lycée de Mantes-la-Jolie, ensuite une exposition photo du rallye précédent qui aura lieu à la Sorbonne aux vacances de Pâques à peu près. Et sinon, le grand événement, c'est le 28 mai 2011, à partir de 10h du matin normalement. Donc c'est le prochain rallye historique qui est ouvert à tous les étudiants et en général, même si les gens ne sont pas étudiants, on les accepte. Le thème, ce sera la fronde.
Public de Transistor, préparez-vous.
Une équipe Transistor est attendue.
Voilà, une équipe Transistor est attendue, elle sera formée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être venue cet après-midi. Vous pouvez bien sûr rappeler à nos auditeurs votre site internet et la façon dont on peut vous contacter.
Clegg Sniffwick, c'est www.clegsniffwick.fr. Clegg Sniffwick, c'est avec deux F.
On mettra ça sur Internet,
sur le site. Oui. Et donc, pour Un pari pour l'histoire.
De manière tout aussi originale, c'est www.unparipourlhistoire.fr. Paris avec un S, sinon vous cassez tout le jeu de mots. Voilà.
Merci beaucoup, Jessica et Élise, et bonne continuation. Nous suivrons vos événements avec intérêt. Concentrons-nous à présent sur la ville de Lyon. Quels lieux sont chers aux yeux des étudiants de l'école? Lesquels fuient-ils au contraire avec dégoût? Enfin, quelles sont leurs expériences les plus insolites? Place aux déambulations lyonnaises. Pourriez-vous nous citer un lieu de Lyon qui vous est cher?
La Croix-Rousse, l'ancien couvent des Chartreux.
La bibliothèque municipale.
Un lieu qui nous est cher à Lyon, le Cormoran.
L'entre autres, c'est un café qui se trouve à côté d'Hôtel de Ville, 11 rue Terme. Et j'anime des sessions slam là-bas. Il y en a une mardi 16.
La Connelle.
On pensait plutôt à un endroit.
La Passerelle Saint-Georges.
L'Opéra.
Il y a une librairie dans Vieux-Lyon qui s'appelle Diogène. C'est une librairie d'occasion et j'aime beaucoup ça.
C'est quoi la question déjà?
La Connelle.
Un lieu de Lyon qui t'est cher, que t'aimes bien, une découverte?
J'ai découvert la rue Saint-Paul avec plein de bouchons et c'était assez sympa.
Le Gros Caillou. C'est un endroit où on a un point de vue sur tout le nord de Lyon et... Au loin, on voit le Jura et le début des Alpes.
Il y a un grand cirque où paraît-il que Saint-Blandine s'est fait couper les seins, mais j'en sais rien. Et juste à côté, il y a un jardin en pente.
C'est rue Léno. C'est un espace d'échange culturel qui s'appelle le Cotopo.
Le Bras de Café.
Moi, j'aime bien les bords de la Saône. Remonter un peu de Perrache jusqu'au Vieux-Lyon, voir un peu l'enfilade, le Fort Saint-Just, la cathédrale Saint-Jean, etc. Et après, aller jusqu'au bout, parce que quand on continue un peu la Saône, c'est vraiment magnifique, vraiment, d'aller jusqu'au bout du fleuve.
La confluence des deux fleuves, on peut mettre une main dans chaque fleuve.
Sinon, j'aime bien les quais aussi.
Entre Jean Massé et Saxe Combata, il y a beaucoup de petites boutiques, et c'est un peu vivant qu'un quartier.
Saxe Combata, correspondant au métro V, direction Charpennes, au stade de Gerland.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me citer un lieu de Lyon qui vous est cher?
Transistor?
Oui.
Oh, l'ENS?
J'aime bien le centre-ville. Vraiment l'hôtel de ville.
Tu peux expliquer un petit peu?
Non.
On aime bien.
Bah, le vieux Lyon.
Le vieux Lyon.
Le vieux Lyon.
La cathédrale.
Quel est le lieu de Lyon qui vous est cher?
Montmartre.
Gerland.
C'est dit avec tant d'amour.
Le vieux Lyon pour ses pubs irlandais, moi.
Moi, ce serait la place des Célestins.
Les archives départementales du Rhône.
Merci.
La cathédrale Saint-Jean.
La Connelle.
La place des Terreaux, j'aime bien ce nom.
Charpennes.
Pourquoi?
Il n'y a rien à Charpennes, mais j'habitais là-bas, c'est tout.
Parc de Tête d'Or, en fait.
Je l'ai mangé dans un restaurant gay qui avait l'air trop glauque, et en fait, c'était génial. Le marché Saint-Antoine.
À quelle échelle?
Je
déjà 10 heures plus mon temps. Alors attends, je réfléchis trop là.
Ben, t'adores.
Journaliste, gare SNCF. Correspondance, tram T2. Direction, Perrache.
Et est-ce qu'il y aurait un lieu vraiment détestable que t'aurais croisé à Lyon?
Perrache. Perrache, c'est sa gare de métro ultra glauque.
Après Perrache, c'est encore plus glauque.
Un lieu que j'ai vraiment trouvé tout pourri.
Perrache. Ouais, Perrache aussi. Cours Charlemagne.
Un lieu tout pourri. Pardieu.
La Pardieu.
Ah oui, le centre commercial de la Pardieu.
PRH.
La Pardieu.
Oui, le quartier Gerland, par exemple. Non.
Si,
quand même.
Je trouve que l'école se suffit à elle-même.
Je trouve que ce quartier-ci est extraordinaire. Pour Vierre, on dirait un éléphant renversé.
Bellecour.
Sud de Villeurbanne.
Le métro de Lyon.
Bon. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. Passons du patrimoine urbain au patrimoine immatériel, celui de la musique, car la chronique Regard sûr est consacrée au concerto numéro 23 de Mozart, qui sera bientôt donné dans cet autre haut lieu lyonnais qu'est l'auditorium, et dont Yun Kwon a décidé de vous parler. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à tous, je vais vous parler dans cette chronique du concert qui aura lieu les jeudis 9 décembre à 20h30 et samedi 11 décembre à 18h. Il s'agit deux fois du même concert et c'est à l'auditorium de Lyon. Alors au programme, il y aura une musique funèbre de Lutos Lesky, le concerto pour piano numéro 23 de Mozart et la symphonie numéro 9 de Schubert. Ça sera avec l'Orchestre National de Lyon qui est l'orchestre en résidence de l'auditorium. Henrik Schiff le dirigera et Till Fellner sera au piano. Alors, Lutos Lesky, c'est un compositeur du XXe siècle que je ne connais pas du tout. Ce sera une occasion pour moi de le découvrir. La symphonie de Schubert, c'est une des plus grandes réussites du compositeur, énorme œuvre symphonique d'une cinquantaine de minutes qui est absolument majestueuse, mais je vais vous parler plus en détail du concerto de Mozart. Alors, concerto pour piano numéro 23 de Mozart, numéro 488 au catalogue Köchel. Pour ceux qui ne le savent pas, un concerto, c'est une œuvre souvent divisée en plusieurs parties. On dit qu'elle est constituée de plusieurs mouvements, c'est un petit peu comme des chapitres, et dont la particularité est qu'il s'agit d'un dialogue entre un soliste, ici le piano, et l'orchestre. Il a été composé en 1786, Mozart avait alors 30 ans. Alors, beaucoup de personnes considèrent que la musique de Mozart est trop simple, trop enfantine, trop naïve, mais ce concerto prouve le contraire en apportant une réflexion très mature où cohabitent angoisse et espoir, ombre et lumière. Alors, le premier mouvement, marqué Allegro, c'est-à-dire allègre, commence de manière bien rythmée, dans une tonalité majeure, de manière joyeuse et ensoleillée, mais assez vite, on entend des petites touches de couleur mineure qui annoncent déjà un peu le tragique du second mouvement. Et ce second mouvement, qui est noté adagio, ce qui veut dire à peu près lent en italien, est absolument magnifique. Il est en mode mineur, il s'en dégage une mélancolie et une solitude incroyables. Il y a quelque chose de pathétique, chargé d'amertume. On en perd la notion du temps et c'est un petit segment d'éternité. Mais c'est finalement la joie qui triomphe dans le troisième et dernier mouvement marqué allegro assai, assez rapide, avec une gaieté qui est plus sereine que débordante et dont l'impression libératrice ne va jamais jusqu'à faire oublier les contradictions tragiques d'où elle se dégage. Donc comme bien souvent avec Mozart, sa jeunesse, puisqu'il est mort à 36 ans, le pousse à être optimiste, à terminer sur une note positive. Le troisième mouvement exprimant le fait que malgré tous les tourments qui ont pu nous bouleverser, la vie continue. Et voilà, on est bien loin de la caricature qui voudrait que tout chez Mozart soit simpliste et puéril. C'est en fait plutôt le contraire. Et pour finir, je signale à ceux qui ne le savent pas qu'il y a un abonnement pour les moins de 26 ans à l'auditorium qui donne accès à tous les concerts de la saison pour seulement 72€. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai pris 30 concerts pour cette année, donc le prix du ticket de métro aller-retour me coûte presque plus cher que le concert lui-même. Donc je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner, c'est vraiment une opportunité incroyable pour découvrir des œuvres et des compositeurs, ou les redécouvrir dans d'excellentes conditions, puisqu'avec la carte entrée libre, on obtient souvent des places de catégorie 1 qui coûtent en temps normal une cinquantaine d'euros. Et par ailleurs, l'acoustique de l'auditorium est vraiment très bonne. Donc on peut s'abonner soit au guichet de l'auditorium, soit sur leur site onl.fr. Et pour le concert, je vous rappelle que c'est les jeudis 9 décembre à 20h30 et samedi 11 décembre à 18h. Voilà, c'est tout pour cette chronique. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci à Yun Kwon. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à Jessica et à Elise qui ont répondu à notre invitation. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite.
Oui, mais on se quitte en musique, comme d'habitude, avec cette fois-ci une artiste berlinoise, donc Zoé Lila, j'espère que je prononce bien son nom. Nous allons écouter un extrait de son premier album, qui est sorti en 2010, Queen Don't Come, et le morceau que vous allez écouter s'intitule Gold. Bonne journée et à très bientôt.
À très bientôt.
Is laid out, sick to be cursed. Now you get played out. Wanna know who I am? Better taste my name. Hit to fame, defining my own game. There ain't no labels to describe. Mashing up styles, I'm busting the hype. Listen when I speak, it is unique. Straight street, blueprint deep. Dig it, I'm a product of my own. Keep the shit you spit or you're going down.